Il y a le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, qui a présenté son budget 2022-2023 hier. Et pour essayer d'en comprendre les retombées, on reçoit un fiscaliste de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau de Sainte-Marie. C'est M. Steve Vachon. Bonjour, M. Vachon.
Bonjour, M. Routier.
D'entrée de jeu, M. Vachon, le fameux 500 $ là, qui pourrait être remis en termes de crédit d'impôt pour chaque personne qui gagne 100 000 $ et moins en 2021, comment concrètement tout ça va se matérialiser?
Effectivement, donc, 500, donc un crédit remboursable pour commencer, 500 $ et plus. 500 $ c'est-à-dire.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Relié à trois conditions.
Okay.
Une des conditions, c'est avoir un revenu inférieur. Donc, on parle d'un revenu net inférieur de 100 000. Le revenu net, là, on fait référence à la déclaration d'impôt, là, donc à la ligne 275. Parce que lorsque vous regardez votre T4, là, c'est le revenu brut qu'il faut regarder, le revenu brut.
Ouais.
Mais au fin de la déclaration d'impôt, c'est le revenu net. Et donc, si on se qualifie à ça, après ça, ben, il faut produire notre déclaration d'impôt pour 2021.
Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait gagné 103, 104 000 $ mais qui a pris 5 000 de REER, il vient de tomber à 99 000 $
Exactement, vous avez tout compris. Donc, la déduction REER rentre dans le calcul au fin du calcul du revenu net. Effectivement, c'est ça qui se passerait et on aurait le droit aux 500 $
Mais les gens, techniquement, n'ont rien à faire à part que de produire leur déclaration d'impôt de revenus. Ça va se faire tout seul, là.
Exactement. Ceux et celles qui auront déjà fait leur déclaration de revenus, ils vont avoir un petit peu de temps de traitement, là, mais ils vont recevoir le 500 $ si par ailleurs ils satisfont les autres critères.
Oui, parce que c'est pas un chèque qui est dans mal nécessairement là, pour quelqu'un qui va produire son rapport d'impôt. C'est un crédit d'impôt de 500 $ pour aider les contribuables à faire face à l'augmentation du coût de la vie. S'il est déjà produit puis que vous aviez un remboursement ou encore vous aviez, par exemple, à payer puis que vous avez déjà tout réglé, ben là, vous allez recevoir le chèque de 500 $
Exactement. C'est un crédit remboursable. Donc, si vous avez déjà réglé vos impôts, ils vont retraiter votre déclaration et vous allez recevoir le chèque ou le transfert bancaire, effectivement.
Ça, c'était la meilleure façon de soutenir les contribuables avec un retour comme celui-là, parce qu'il y a été beaucoup question dans les dernières semaines d'un crédit de taxe sur l'essence, mais visiblement, on aurait pu penser que les pétrolières auraient comblé avec le prix de vente cette portion de taxe-là. Donc, le gouvernement a préféré de faire un crédit de taxe, là.
Oui, puis l'idée qui est derrière ça, c'est qu'ils ont fait l'analyse que le premier 20 000 ou 25 000 $ de consommation, ben, ça s'applique à tous les contribuables qu'on gagne 50 000, 75 000 ou 90 000. Et ils veulent encourager ou aider chacun des contribuables, peu importe leur revenu inférieur à 100 000.
Mais 6,4 millions de Québécois, là, c'est tous ceux qui sont sur le marché du travail. Si on exclut les retraités, puis si on exclut les enfants qui sont à l'école, c'est pas mal tout le monde qui va le recevoir, le fameux 500 $ de crédit d'impôt, là.
Effectivement, c'est 90 % de la population. Puis, un élément, c'est 18 ans et plus, là. Donc, on peut faire une allusion également parce qu'on dit, ben écoute, c'est-tu une mesure d'élection préélectorale? Donc, ça touche vraiment ceux qui vont voter, hein, 18 ans et plus.
Ouais.
Maintenant, je pense que c'est chacun des contribuables qui a le droit à son crédit. Maintenant, est-ce que la mesure atteint l'objectif voulu? C'est certain que pour la personne qui gagne peut-être 25-30 000 $ l'augmentation du coût de la vie est plus difficile pour cette personne-là, effectivement.
Donc, ce crédit d'impôt-là pourrait, à tout le moins, rendre service. Puis le fameux 100 000, c'est pas un revenu familial, là. C'est vraiment pour chaque personne qui réside dans la maison.
Exactement. C'est chaque contribuable québécois qui a le droit à son 500 $
On a beaucoup parlé de cette mesure-là dans l'actualité, mais est-ce qu'il y a des trucs, parce que dans notre communauté, il y a un manque criant là, de travailleurs. Est-ce qu'on a mis en place des structures qui pourraient favoriser l'embauche de travailleurs?
Effectivement. Donc, le gouvernement a certains enjeux, hein, qui sont toujours à peu près les mêmes. La santé, l'éducation, l'emploi, l'économie. Mais des dernières années, là, dans toutes ces sphères-là, la main-d'œuvre est criante. Et dans notre région, on en a parlé également. Et c'est un peu qu'est-ce que j'ai regardé dans chacune des mesures, que ce soit dans la santé, l'éducation, la croissance. Et il y a quelques petites mesures que je trouve peut-être pas assez coloré. Par contre, je regarde un peu dans le domaine de la santé. On parle, là, j'ai 3,4 milliards sur 5 ans pour améliorer la gestion et la prestation de travail. On parle d'aller vers un changement de culture de l'organisation du travail. Donc, c'est des beaux grands mots. Maintenant, comment ça va se faire en pratique? Il y a certainement l'intention du gouvernement d'agir. En éducation, on parle d'attirer des travailleurs expérimentés. On parle d'aller recruter des enseignants. Dans la croissance économique de notre région, on parle de renforcer l'intégration des personnes immigrantes. Donc, c'est quand même 290 millions sur 5 ans pour la province, oui, mais c'est un besoin que nous avons également en Nouvelle-Beauce. Également, dans le bioalimentaire, quand même 3 millions par année au Québec pour atténuer la rareté de main-d'œuvre. Donc, il y a quand même quelques certains éléments intéressants au niveau de la main-d'œuvre, mais pas de fil conducteur. Où qu'on voit là, qu'on veut marteler et nous aider à titre de communauté ou d'aller chercher de la main-d'œuvre.
Là, on parle de main-d'œuvre, on parle de soutenir les contribuables pour faire face à la hausse du coût de la vie. Mais quand il est question de réduire les gaz à effet de serre, on nous encourage à opter pour un véhicule électrique. Bien là, la subvention passe de 8 000 à 7 000 $ donc on en donne moins du côté de l'État, là.
Oui, j'ai été personnellement un peu surpris de cette réduction-là. Je trouve que ça va un petit peu à l'encontre peut-être du message qu'on lance avec pour sauver la planète. Bon, écoutez, je connais pas tout le secteur de l'activité des véhicules, là. Est-ce que maintenant il y a plus de demandes, moins de demandes? Ça a-tu un effet? Est-ce que ça va faire varier les prix? Puis là, les contribuables ont besoin de moins d'aide parce que les prix vont baisser. Écoutez,
c'est un bon point de vue que j'avais pas analysé parce qu'il y a davantage de véhicules qui ont été immatriculés, de véhicules électriques dans la dernière année au Canada. On est passé d'une moyenne de 30 000 à 68 000, de sorte que ben, peut-être que l'offre et la demande vont faire en sorte que le prix de revient va diminuer, là.
Oui, peut-être, probablement. Okay. Un élément au niveau de l'environnement que j'aimerais soulever qui touche notre grand territoire au niveau de l'environnement. On parle d'une injection de 38 millions de dollars pour la mise en œuvre de plans d'action de gestion de l'amiante. Donc, on est dans une région quand même de proximité avec l'amiante, là, qui peut probablement toucher quelques organisations de notre région. Donc, je trouvais ça intéressant de le soulever au passage.
Monsieur Vachon, par exemple, vous êtes un habitué, vous êtes fiscaliste chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Si on donne de 1 à 10 comme note, est-ce que 10 étant la note de la perfection, là, vous donneriez combien au ministre des Finances, Monsieur Girard, hier?
7,5, puis je l'explique rapidement. Au niveau de la finance, le budget, malgré un déficit de 6,5, là, il y avait un fonds de génération utilisé, donc on aurait été plutôt de façon comptable à un déficit de 2,6 milliards, ce qui nous rapporterait à l'équilibre en 2023-2024. Puis l'autre élément dans cette planification-là, faut pas oublier que le premier ministre est un CPA, un comptable de formation. Il a quand même une provision pour risque économique de 2,5 milliards en 2023, puis 1,5 milliards dans les années futures. Et ce scénario-là, cette provision pour risque économique, il perçoit vraiment peut-être une difficulté, que ce soit au niveau, là, et là on parle de pandémie, d'inflation, de rareté de la main-d'œuvre. Donc, il est conservateur, il y va doucement. J'aime quand même cette approche-là. Par contre, je trouve qu'il manque un peu de couleur sur nos enjeux, entre autres de main-d'œuvre, ou qu'on aurait pu être un peu plus...
agressif.
Intervenir.
Bon, OK. Ben excellent. Ben, M. Vachon, merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous résumer tout ça aujourd'hui.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir. Steve Vachon, il est fiscaliste chez Raymond Chabot, Grant Thornton, le bureau de Sainte-Marie. On revenait sur le dépôt du budget provincial hier du côté de l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a présenté, selon l'évaluation de l'équipe de Raymond Chabot, Grant Thornton, un budget de 7,5 sur 10. 16,4